Cléa Salamé, votre invitée ce matin, est eurodéputée La République En Marche.
Bonjour à vous Nathalie Loiseau.
Bonjour Léa Salamé.
Et merci d'être avec nous ce matin. Vous allez entendre dans quelques minutes donc à notre micro le lanceur d'alerte Edward Snowden demander officiellement à Emmanuel Macron de lui accorder l'asile. Faut-il accéder à sa demande ?
Alors Edward Snowden, c'est quelqu'un qui a rendu service à l'humanité. C'est quelqu'un qui nous a montré, preuve à l'appui, qu'il y avait un système de surveillance extraordinairement vaste, travaillant avec des entreprises qui acceptaient de donner leurs données dans le dos de leurs utilisateurs. Mmh. Merci Edward Snowden.
Et
une remarque quand même. On a beau être dans une monarchie républicaine, comme on le dit en permanence, c'est pas le président de la République qui donne l'asile en France. C'est heureux. L'OFPRA, et ensuite une cour. C'est-à-dire qu'il y a une agence totalement indépendante, qui fait totalement ce qu'elle veut, et qui décide ou pas qu'elle a le droit à l'asile. C'est à l'OFPRA de reprendre la nouvelle demande d'asile, puisque je comprends qu'il y en a une, d'Edward Snowden. À titre personnel, je ne vois pas ce qu'Edward Snowden fait en Russie, un des pays les plus habitués à la surveillance de masse et à la manipulation.
Donc vous vous dites
je serais plus heureuse qu'il soit en Europe. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que aucun pays européen n'a donné l'asile à Snowden.
Non.
Je pense qu'on est en décalage complet par rapport aux valeurs qu'on porte.
Donc vous dites, il faudrait l'accueillir.
Absolument.
La nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, persiste et signe ce matin dans le Figaro et assume, dans une tribune, vouloir appeler « protection du mode de vie européen » le portefeuille du commissaire chargé notamment des migrations. Est-ce que ça vous choque, cet intitulé ?
Oui, ça me choque. Et non seulement je le dis à votre micro, mais je l'ai dit au Parlement européen. Les commissions du Parlement européen, qui s'occupent de différents secteurs, moi c'est défense et sécurité, Pascal Canfin, c'est l'environnement, enfin bref, nous avons voté ensemble pour demander à Ursula von der Leyen de changer cet intitulé qui est quand même extraordinairement mal inspiré.
Pourquoi ?
Parce que
elle dit, il faut se réjouir que ça crée le débat, cet intitulé, et puis il faut assumer ce qu'on est. Elle le dit dans le Figaro, il faut défendre haut et fort nos valeurs de liberté, notre façon de faire, nos traditions propres par rapport au reste du monde. En clair, il faut être fier de ce que nous sommes et appeler ça protection du mode de vie européen.
Mais elle a une commissaire aux valeurs. C'est même une vice-présidente de la Commission. Et c'est très bien. Et défendre les valeurs européennes, il faut le faire d'ailleurs à l'intérieur de l'Union européenne, où elles sont parfois sérieusement bousculées, comme à l'extérieur. Alors ça, elle aura derrière elle 100% tous les jours. Mais quand j'entends l'extrême droite se réjouir que la Commission se mêle de nos modes de vie, c'est bien la première fois que l'extrême droite voudrait que la Commission en fasse plus. Comme par hasard, sur un sujet... Protéger les modes de vie, ce serait lutter contre l'immigration. Je suis désolée, je suis absolument pas d'accord. Je pense que c'est une erreur et nous demandons formellement à Ursula von der Leyen de revoir cet intitulé. Le commissaire dont il s'agit va travailler sur l'immigration et l'intégration. Il n'y a pas de honte à nommer les choses. Travailler sur l'immigration, ça veut dire beaucoup de choses, mais je ne vois pas pourquoi il faut se cacher derrière un parapluie, surtout quand ce parapluie est à ce point inapproprié.
Bien, l'immigration justement, le nouveau gouvernement italien formé par Giuseppe Conte a accepté samedi que le navire humanitaire Ocean Viking, qui cherchait un port depuis 2 semaines, accoste à Lampedusa. C'est la première fois en 14 mois que l'Italie propose un port sûr à un navire de secours. Est-ce que vous saluez cette initiative qui marque une rupture avec la politique de Salvini ?
Évidemment. D'abord, je salue, j'allais dire, le retour de l'Italie parmi nous. C'est un immense soulagement. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce que l'extrême droite parle fort.
Le retour de l'Italie parmi nous, c'est pas un peu condescendant ? Je veux dire, les Italiens, ils avaient voté pour Salvini aussi, non ?
Écoutez, ils avaient voté certains pour Salvini, d'autres pour Di Maio. Je pense pas qu'ils avaient imaginé que les deux allaient se mettre ensemble. Je pense pas que cette coalition était ce que les gens avaient dans la tête quand ils ont mis leur bulletin dans l'urne. C'est ce qu'ils ont vécu. Ça n'a pas formidablement réussi à l'Italie.
Enfin, Salvini est ultra populaire. C'est aujourd'hui l'homme politique le plus populaire en Italie.
Qui a perdu 15% de popularité, si c'est ça le critère, à partir du moment où il a raté une marche. Il s'est tiré dans le pied tout seul. C'est le type même du populiste, l'homme qui parle fort mais qui n'est pas un homme fort. Moi, je suis rassurée de voir l'Italie aujourd'hui... avec nous, en train de discuter, de dialoguer ouvertement sur comment on accueille les bateaux de gens qui ont manqué de se noyer. Puisque c'est de ça dont il s'agit, comment on respecte le droit de la mer, mais au-delà, comment est-ce qu'on respecte notre devoir d'humanité.
Les 82 migrants seront répartis dans 5 pays, oui. Dont l'Italie, la France, l'Allemagne, le Portugal et le Luxembourg. L'Allemagne a déjà annoncé qu'elle en accueillerait 24.
Oui.
Est-ce que la France doit en accueillir le même nombre ?
Alors, c'est pas à moi de le dire, et je trouve cette arithmétique toujours un peu compliquée. Quand j'étais au gouvernement, j'ai participé à ça, puisque, y compris quand les ports étaient fermés, y compris quand aujourd'hui encore, certains pays européens refusent d'accueillir des naufragés, la France a toujours été au rendez-vous, a toujours dit oui et a même plutôt été en initiative. Après, ça donne des heures un peu curieuses où on s'appelle en disant « j'en prends 25, t'en prends combien ?» Franchement, il faut un système pérenne qui permette qu'à chaque fois que des gens sont en danger, on soit à la hauteur des valeurs qu'on prétend défendre.
Le Brexit. Malgré ses défaites répétées devant le Parlement, Boris Johnson a dit samedi que d'énormes progrès étaient en cours pour aboutir à un accord sur le Brexit dans les prochains jours. Sinon, ce sera une sortie sèche, un no deal le 31 octobre. Vous lui dites quoi à Boris Johnson ce matin? De toutes les manières, on vous donnera pas de nouveaux reports, cher Boris Johnson. Il faut partir maintenant.
Non, d'abord, je lui demande de dire la vérité à ses concitoyens. Quand il n'y a pas de progrès, il faut assumer de dire qu'il n'y a pas de progrès. Quand on vient les mains dans les poches, il faut dire « je suis venu les mains dans les poches ». Quand on a envie d'un no deal, il faut dire « j'ai envie d'un no deal ». Mais là, on est dans une espèce de novlangue orwellienne. On a quelqu'un qui dit « je veux pas d'élection », mais qui deux fois vient devant les communes pour demander une élection anticipée. On a quelqu'un qui dit « je veux un deal », mais une de ses ministres nous dit « on passe 90% de notre temps à préparer un no deal ». La vérité, ça ferait pas de mal. Depuis 3 ans, je pense que les Britanniques s'y retrouvent plus. Je pense que être véritablement démocratique, c'est pas dire il y a eu un référendum à la question quel est votre avenir, il faut répondre oui ou non, ce qui n'a aucun sens. C'est assumer. C'est assumer que quand on a voulu être en responsabilité, quand on a voulu être à Downing Street, on a des responsabilités, on a des choses à faire, on a des choses à dire. Ce qu'on dit à Boris Johnson, c'est si vous voulez un report, si vous voulez nous le demander, expliquez-nous pourquoi. Oui. Expliquez-nous à quoi ça sert.
Mais est-ce qu'il faut donner ce report ou est-ce que maintenant ça suffit, comme dit Emmanuel Macron, à un moment faut divorcer quoi.
Alors, ça dépend d'eux. C'est pas nous qui leur avons dit de sortir. Moi, j'ai le cœur déchiré à voir les Britanniques partir. Ça va nous affaiblir. Il n'y a pas de bon Brexit. N'importe quel Brexit sera moins bien que la situation d'aujourd'hui. Donc on leur dit, faites ce que vous voulez, mais bon, sans décider, ça fait 3 ans qu'on attend, avec patience, avec grâce, avec respect, mais l'Europe a aussi autre chose à faire.
Nathalie Loiseau, vous étiez la grande favorite pour présider le nouveau groupe des libéraux Renew Europe, dont vous aviez pris la tête de la République En Marche pour les européennes. Finalement, vous avez dû y renoncer après que la presse ait révélé des propos pas très diplomatiques que vous auriez émis sur vos collègues. La presse a parlé de vous en parlant de crash, de sabotage, de suicide politique tout au long de cette campagne et après. À froid, est-ce que vous sortez blessé par cette campagne pour les européennes?
À titre personnel, non. Parce que quand on part en campagne, on sait que ça va pas être facile, on sait que ça va être violent, et on sait qu'il y aura de la mauvaise foi. Donc à titre personnel, faut mettre son orgueil dans sa poche. Pour la démocratie, parfois un peu. Parce que il y a eu des raccourcis, il y a eu des inexactitudes. Parfois, les réseaux sociaux font l'agenda de l'info en continu, qui elle-même fait l'agenda de la presse traditionnelle. Vous le savez, nous le savons, nous politiques, vous journalistes, on est dans une époque où on n'a pas encore tout à fait réussi à atterrir. Est-ce que ma campagne était parfaite? Sûrement pas. Est-ce que je suis fière, heureuse et j'allais dire de bonne humeur d'avoir aujourd'hui 23 députés au Parlement européen qui travaillent et qui font la différence? Carrément oui.
Merci Nathalie Loiseau, belle journée à vous.
Merci Léa, à tout à l'heure.